pendant cette présentation, je vais bien évidemment donc vous parler des aspects de cellules souches et de clonage thérapeutique, en sachant que peut-être concernant de nombreux aspects dits de bioéthique qui sont liés à ces techniques, je ne suis pas scientifique, hein, on vous l'a déjà dit, mais je vous le répète, donc je ne pourrais pas vous répondre sur les aspects purement scientifiques du clonage ou des cellules souches, mais par contre, véritablement, ça induit des questions dites sociétales. Ces questions sociétales, elles me concernent à moi en tant que, entre guillemets, expert de ces questions, puisque c'est mon métier, je fais de la recherche sur ces thématiques, mais elles vous concernent surtout à vous qui devez construire aussi une réflexion collective, une réflexion commune, parce qu'on va le voir, en fait, il y a une grande spécificité des sciences de la vie au regard du droit ou de son encadrement normatif, ou on va dire des réflexions éthiques qui sont autour. Il y a une vraie spécificité, c'est que les sciences de la vie sont extrêmement mouvantes et vont très vite. Et que les progrès qui sont réalisés dans ces champs sont souvent très complexes à appréhender par la norme juridique, par le droit, par la réflexion éthique. Donc on ne peut pas, nous, imposer des normes, imposer des règles qui ne soient pas acceptées socialement. Donc on a vraiment besoin de ce regard citoyen, des citoyens que vous êtes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de cellules souches et de clonage thérapeutique. Alors, quelques propos introductifs. De quoi est-ce qu'on parle et de qui parle-t-on? Quand on parle de cellules souches ou quand on parle de clonage thérapeutique, on peut avoir déjà d'emblée un certain nombre d'idées qui nous viennent à l'esprit, mais il y a déjà des catégories. Donc ces catégories, on va les définir un petit peu plus tard, mais déjà d'emblée, on va essayer de savoir de quoi on parle ou éventuellement de qui on parle. Alors, on parle tout d'abord des cellules souches embryonnaires. Au premier abord, déjà, vous pourrez comprendre, et on reviendra sur ça aussi, que ce sont ces cellules souches-là qui nous posent des problèmes, qui nous posent des difficultés, tant en termes d'accès, comment avoir accès à ces cellules souches embryonnaires, qu'en termes d'utilisation, est-ce qu'on peut les utiliser, et si oui, pourquoi et dans quel objectif. Alors, ces cellules souches embryonnaires, on peut y avoir accès de plusieurs façons. Ça peut être à partir d'embryons, ça peut être donc au niveau cellulaire, ça peut être à partir de fœtus, donc c'est-à-dire des fœtus qu'on aura récupérés, des fœtus morts, bien évidemment. Ça peut être soit des cellules, c'est l'entité sur laquelle on va travailler, ça peut être des cellules, ça peut être des tissus dont on va extraire des cellules. Donc vous le voyez déjà, il y a une grande diversité derrière la terminologie cellules souches embryonnaires. Ça peut aussi également, on en trouve, des cellules souches, chez les adultes. Alors celles-ci, elles posent moins de questions techniques, elles posent moins de questions éthiques, mais elles posent encore un certain nombre de questions techniques sur lesquelles on reviendra également tout à l'heure. Et dernier contexte d'accès, c'est que finalement, ces cellules, on peut les obtenir à partir de corps vivants, mais également à partir de corps morts. Et cette distinction en droit, elle a un sens. C'est-à-dire que tant qu'on est vivant, on est une personne humaine. Quand on est mort, on n'a plus les droits que nous avons tous ici, qui sont rattachés à la notion de personne humaine. Donc le degré de protection et le degré et le niveau d'utilisation changent de façon assez conséquente. Donc on reviendra sur ça également. Donc on a vu en gros là, très rapidement, de quoi est-ce qu'on parle, quelles sont ces cellules, et éventuellement, quels sont leurs contextes d'accès, comment on arrive à en avoir. Nous, ce qui va véritablement nous intéresser aujourd'hui, ce sont ces deux-là, c'est-à-dire l'antagonisme, parce que c'est quelque chose en recherche qu'on voit tout le temps, et aussi au niveau des questions éthiques qui sont posées, l'antagonisme qui existe entre les cellules souches dites embryonnaires et les cellules souches adultes. Parce qu'il y a un véritable choix à faire pour les pouvoirs publics de savoir si ces deux voies peuvent coexister, c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'on mette des sous, hein, soyons clairs, dans la recherche à partir de cellules souches embryonnaires ou dans la recherche à partir de cellules souches adultes, est-ce qu'elles ont les mêmes objectifs thérapeutiques à terme et est-ce que finalement c'est plus simple sur le plan éthique d'utiliser l'une ou l'autre voie? La question étant que, clairement, comme ça coûte cher de faire des recherches dans ce domaine-là, il est très compliqué de dire qu'on va faire les deux voies en parallèle. On peut, et c'est ce qui se fait actuellement. Mais à un moment donné, on va se poser la question, au niveau des pouvoirs publics, au niveau de la recherche, où est-ce qu'on va mettre le plus d'argent? Qu'est-ce qu'on va souhaiter le plus développer? Quelques définitions maintenant. Alors, des définitions qui, pour moi, restent de l'ordre des sciences humaines et sociales. Hein. C'est-à-dire, je ne vous donne pas des définitions extrêmement précises sur le plan scientifique. Les cellules souches, ce sont tout d'abord donc des cellules qui sont capables de se diviser et de donner des lignées cellulaires filles. Donc déjà, à partir de cette définition qui est assez simple, l'idée c'est qu'on a la capacité, grâce aux techniques génétiques, aux techniques scientifiques, d'utiliser des cellules et d'orienter leur différenciation. C'est-à-dire de décider qu'on va faire plutôt des cellules de peau, des cellules d'organes, de foie. Et ce choix-là, ça va servir très clairement à ce qu'on appelle la médecine régénérative, c'est-à-dire ça va permettre de substituer une carence cellulaire dans un domaine ou dans un autre. Donc l'objectif, c'est d'obtenir des cellules, de prélever des cellules, ensuite de les manipuler et ensuite donc de les faire évoluer vers ce que l'on aura choisi ou ce qui sera techniquement possible de faire aussi, hein, parce que bien évidemment, il y a des barrières techniques. Donc ça, ce sont les cellules souches. À côté, et ensuite j'expliquerai le lien entre les deux en fait, et je pense que c'est pour ça qu'on m'a fait venir, surtout pour voir quels sont les liens entre les deux. À côté, on a la définition du clonage. On a deux formes de clonage. Le premier, c'est le clonage dit reproductif. J'ai mis ici, entre parenthèses, que ce type de clonage était interdit, parce que quand on fait un petit panorama des textes qui existent, les législations nationales, mais également des instruments juridiques internationaux, tous les textes prohibent et interdisent le clonage dit reproductif. Le clonage reproductif, c'est donc faire naître à l'identique un individu. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas le faire, ça. On a réussi à le faire pour des animaux. Hein. Vous avez tous entendu parler de Dolly, et puis ensuite, il y a eu énormément d'autres animaux qui ont été clonés. Jusqu'à présent, malgré quelques effets d'annonce, on n'a pas réussi à le faire pour l'être humain. Donc ça, c'est interdit. On reviendra sur ça aussi, hein, si vous avez des questions, sur ce principe d'interdiction. Autre forme de clonage, c'est ce qu'on appelle le clonage donc thérapeutique, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ce clonage thérapeutique, j'ai mis là entre parenthèses qu'il était plus ou moins autorisé parce qu'on va le voir, eh bien, il y a différents cas de figure. Il y a des pays qui l'interdisent totalement, des pays qui l'autorisent totalement, et puis une troisième catégorie de pays, on va dire, qui encadre sous réserve d'eux, avec un système d'encadrement et un système de limitation. Ce clonage dit thérapeutique, c'est l'utilisation ou la création d'embryons en vue d'en extraire les cellules souches embryonnaires. Donc, si vous voulez, c'est une source pour obtenir des cellules souches. Alors, c'est juste deux mots, mais là aussi, on explicitera un petit peu plus par la suite. La distinction entre les deux, donc entre clonage reproductif et clonage thérapeutique, c'est bien évidemment que dans le premier cas, il y a une réimplantation, ou il y aurait une réimplantation avec au bout la naissance d'un être qui serait identique génétiquement à la personne sur laquelle on aurait prélevé les cellules. Donc il y a vraiment un projet de la naissance d'un enfant, d'un bébé. Donc il y a toute la problématique hein, de la réimplantation. Dans le deuxième cas, en aucun cas, on pense à faire naître un bébé. C'est simplement qu'on va utiliser la même technique que pour le clonage, c'est-à-dire qu'on va utiliser des ovocytes que l'on va énucléer, dans lesquels on va transférer un noyau d'une autre cellule, et on va les manipuler au stade 8 cellules, par exemple. Ça veut dire que dans le deuxième cas, l'objectif est véritablement d'utiliser des cellules pour, à terme, faire du soin. Il n'est pas question dans le deuxième cas de faire naître un bébé. L'objectif, vous voyez, n'est pas du tout le même. Alors, il y a quand même beaucoup de confusion dans les esprits entre ces deux formes de clonage, pour une première raison qui est purement sémantique, qui est qu'on utilise le même terme. Alors, on va le voir, le législateur a proposé des parades, parce que justement, cette confusion sémantique a fait pendant longtemps penser que les mêmes problématiques éthiques étaient liées dans les deux cas, au clonage thérapeutique et au clonage reproductif, alors qu'on va le voir, les questionnements sont absolument pas les mêmes, sont vraiment très très différents. Donc vous le voyez, il faut quand même avoir en tête que les cellules souches, ça a une définition qui est propre, et que le clonage dispose de deux définitions qui sont spécifiques. Alors maintenant, Je suis désolée de la mauvaise qualité de cette image, c'est tiré d'un article du Monde, mais c'était juste pour avoir une première image de, en gros, quel est le contexte d'accès, comment on peut y avoir accès à des cellules souches, qu'elles soient embryonnaires ou qu'elles soient adultes, et en gros, à quoi ça sert. Donc, je passe par toutes les diverses catégories de cellules souches, hein, puisque ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mais l'objectif est quand même clairement d'obtenir des traitements. Alors, cette façon, en tout cas, de penser l'utilisation des cellules souches, c'est actuellement pas tout à fait possible à partir de cellules souches embryonnaires. Quand on parle de cellules souches embryonnaires aujourd'hui, on en est vraiment au stade qui est tout en bas, là, on en est au stade de la recherche. Les cellules souches qui sont aujourd'hui utilisées en médecine et en médecine régénérative, ce sont des cellules souches adultes. Ce ne sont pas des cellules souches embryonnaires. En tout cas, pas encore. Là, en fait, ce n'est pas pour vous faire un cours sur le clonage, j'en serais bien incapable, mais c'est juste pour vous montrer les images. C'est-à-dire que quand on parle de cellules, véritablement, alors là, c'est profondément éthique la réflexion, et puis c'est pour vous donner aussi de la matière à réfléchir pour plus tard, pour quand on se posera les questions. On le voit, quand on voit des cellules, les cellules sont des cellules. C'est-à-dire que c'est pas encore un bébé. Hein? On n'en est pas encore au stade où c'est un enfant. Par contre, ces cellules, elles ont un potentiel de développement. Et elles ont le potentiel de se développer en un bébé, effectivement. Mais si on décide de les manipuler au stade cellulaire, elles n'ont plus aucune chance de devenir un bébé. Elles ont simplement la chance de devenir des produits. Des produits qui pourront ensuite être utilisés pour régénérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la peau, des organes, etc. Ou suppléer des fonctions corporelles. Donc on le voit, la première des questions éthiques qui va se poser là, c'est a-t-on la possibilité, parce que techniquement c'est possible, d'utiliser ces cellules et de les manipuler pour le bien de la collectivité. En sachant que c'est en gros, on est sûr qu'en utilisant ces cellules, il n'y aura pas de bébé qui pourra naître au bout. Donc c'est la perte de chance d'un bébé de venir au monde. D'accord ? On va voir qu'il y a beaucoup d'arguments qui justifient le « on est pour faire ça », et puis il y a d'autres arguments qui justifient qu'on est contre le fait de faire ça, hein, bien évidemment. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes ces cellules et toute l'utilisation qu'on peut en faire, c'est en gros pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Depuis qu'on y a accès, depuis qu'on sait les manipuler. Donc tout ça, c'est aussi très très lié à la capacité technique que l'on a à utiliser ces cellules et à les transformer. Eh bien, on en fait soit du soin, soit du traitement, soit éventuellement de la recherche. Alors la recherche, c'est vraiment le stade où on en est aujourd'hui, je vous le disais, pour les cellules embryonnaires, en sachant que c'est un véritable choix pour un État de décider ou de ne pas décider de s'engager dans la voie de la recherche sur ce type de cellules. Et on verra qu'en France, on a adopté une certaine position, mais qu'on a des pays européens qui sont très divers au regard de la possibilité d'utiliser ces cellules et de développer de la recherche dans le domaine de ces cellules. Alors, c'est quoi en fait le lien entre les deux, entre les cellules souches et le clonage thérapeutique ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir des différentes définitions que je vous ai données, les cellules souches embryonnaires, elles ont été décrites par les scientifiques comme étant extrêmement intéressantes, notamment au regard de leur potentiel de différenciation. C'est-à-dire que on a pris des cellules souches adultes, on a pris des cellules souches dans différents contextes, et ce que les scientifiques et les chercheurs ont décrit, c'est que celle qui avait la plus grande capacité, justement la plus grande malléabilité pour les différencier en tel ou tel type, soit d'organes, soit de tissus, etc., c'était les cellules souches embryonnaires. Donc elles ont été décrites par les scientifiques comme étant celles qui ont le plus fort potentiel de différenciation. Donc on va dire que sur le plan scientifique, c'est justifié, clairement, d'utiliser ces cellules et en tout cas de développer de la recherche sur ces cellules. Le problème, c'est que la disponibilité de ces cellules, elle est assez réduite. La disponibilité de ces cellules, elle est réduite parce que la seule façon, en tout cas en France, la seule possibilité que l'on a pour avoir accès à ces cellules embryonnaires, c'est celles qui sont prélevées à partir des embryons qui sont congelés, alors qui ne sont pas des embryons, qui sont des 4 cellules ou des 8 cellules, qui sont congelées dans le cadre de la fécondation in vitro. Alors, un petit mot sur ça pour que vous ayez les idées bien au clair sur quels sont ces embryons, d'où ils viennent, et on y reviendra tout à l'heure, hein, mais déjà pour que vous compreniez bien à quoi ça sert et surtout quel impact ça a. Aujourd'hui, quand un couple est déclaré infertile, il a la possibilité d'avoir le recours à une fécondation in vitro. Pour faire cette fécondation in vitro, il y a des traitements qui sont donnés. Et à l'issue de ces traitements, on fait ce qu'on appelait avant des bébés éprouvettes, c'est-à-dire on fabrique des embryons dans des tubes à essai. Ces embryons, une partie de ces embryons sont réimplantés en vue d'avoir un enfant. Et une partie de ces embryons, quand ils sont d'une certaine qualité, donc il faut qu'ils atteignent un certain niveau de qualité, peuvent être congelés. Donc ça veut dire que dans les hôpitaux actuellement, on a des cuves d'azote dans lesquelles on a congelé des embryons pour un futur projet parental. Alors, on fait ça pour une raison très simple, d'abord parce qu'on sait bien le faire, mais aussi parce que ça évite tout le traitement qui est extrêmement lourd et qui peut être très invasif, notamment pour les femmes, dans le cadre des fécondations in vitro. Donc ça veut dire que le jour où on vous prélève vos ovocytes, où on fabrique, entre guillemets, donc, ces embryons, ceux qu'on a la possibilité, on n'en réimplante pas plus que 3 aujourd'hui, ceux qui sont en plus, c'est ce qu'on appelle donc les embryons surnuméraires, sont conservés dans des cuves d'azote dans les hôpitaux. Par contre, on peut très bien imaginer, c'est le cas aujourd'hui, qu'une partie de ces embryons ne fasse plus l'objet d'un projet parental. C'est-à-dire que l'équipe médicale demande régulièrement, donc tous les ans, si les parents veulent conserver ces embryons. Et au bout de 5 ans, c'est une obligation légale, au bout de 5 ans, on ne les conserve plus. C'est-à-dire qu'on va vers le couple et on demande aux parents s'ils souhaitent la destruction de ces embryons ou bien si éventuellement ils consentent à les donner à la recherche. Et ensuite, donc, c'est à ce niveau-là que l'on peut avoir accès à ces cellules. Et ce n'est pas évident. En fait, donc, cet accès n'est absolument pas évident. Donc, pour pallier, si vous voulez, vous savez que la recherche va vite. Donc, on va avoir accès très vite à des cellules souches embryonnaires. Donc, quelles sont les autres voies pour y avoir accès? Il y a une voie que je n'ai pas mentionnée ici, qui est l'importation, c'est-à-dire faire venir des lignées cellulaires d'ailleurs. On le fait. En France, on le fait. Et puis, il y a une autre voie, qui est celle du clonage thérapeutique. C'est-à-dire que la capacité de fabriquer, donc de toute pièce, des embryons en dehors de tout contexte de projet parental, ça permettrait également de multiplier, si vous voulez, la capacité d'avoir cette ressource sous la main. Voilà le lien entre les deux. Sauf que si on arrive à le justifier et à le dire très simplement de façon scientifique, ça pose des questions éthiques non négligeables et qui sont surtout très différentes les unes des autres. Dans un premier cas, on va le voir, la question des cellules souches et de leur utilisation, elle est réglée d'une certaine manière. Par contre, en France, la question du clonage, elle est réglée d'une manière totalement différente. Donc, même si on voit bien qu'il y a du lien entre les deux, même si on peut éventuellement le justifier scientifiquement, il pourrait, et il y a encore aujourd'hui, de grosses difficultés à le justifier éthiquement, c'est-à-dire à justifier cette compatibilité entre les deux de façon éthique. D'autant plus qu'on est dans un contexte qui n'est pas forcément très clair. Alors, on a un double contexte, là aussi c'est juste un panorama, un contexte scientifique et puis on le verra ensuite, un contexte lié aux valeurs éthiques qui sont en présence. L'environnement scientifique, alors on est dans un environnement que j'ai qualifié ici d'instable. Ce n'est pas véritablement instable, je dirais plutôt controversé. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des chercheurs qui aujourd'hui disent qu'il faut absolument s'engager sur la voie de la recherche sur les cellules souches embryonnaires. C'est l'avenir, c'est là que l'on va avoir des résultats. On a eu des premiers résultats chez l'animal, il faut persévérer chez l'humain. On est sûr que ça va fonctionner et on est sûr que ça va pouvoir apporter des progrès thérapeutiques majeurs. Et puis, il y en a d'autres. Alors, ce ne sont pas forcément d'ailleurs des scientifiques qui contrecarrent ce discours. Ce sont plutôt des gens de sciences humaines et sociales, mais également d'autres scientifiques qui disent « Non, mais écoutez, ce n'est pas tout à fait vrai parce que Dans tous les pays, par exemple, où on a autorisé le clonage thérapeutique, eh bien, on n'a pas de résultat. Alors, ça aussi, sur le plan purement objectif, c'est vrai, mais on n'a jamais vu non plus une découverte ou une recherche qui porte ses fruits à 5 ans ou à 10 ans. Il faut un peu de temps pour que les résultats arrivent. Donc, je ne sais pas si cet argument est très fort pour dire que ça n'a pas porté ses fruits ou que ça n'a pas porté ses résultats. Par contre, je pense qu'il y a des effets bloquants au niveau éthique qui, eux, sont très forts. Et donc, les partisans de ces de ne pas forcément s'engager dans cette voie disent eh bien, il faudrait peut-être mettre plus d'énergie dans la recherche sur les cellules souches adultes. Là, maintenant, il y a eu aussi d'autres résultats qui sont assez récents en matière de recherche, où on a retrouvé, notamment donc, dans le tissu adipeux, des cellules souches qui avaient un très fort potentiel de différenciation. Alors on se dit que finalement, aller récupérer quelques cellules dans le gras, ça pose moins de problèmes que d'aller récupérer quelques cellules chez les embryons. Donc vous voyez, il y a véritablement aussi les découvertes scientifiques qui vont très très vite, qui permettent petit à petit d'éluder ou de parer à toutes ces questions éthiques qui se posent. Mais malgré tout, et je crois que c'est de bonne guerre, de nombreux chercheurs continuent à croire dans le potentiel de développement et dans le potentiel d'utilisation thérapeutique des cellules souches embryonnaires. Ça, c'est ce que dont je viens de vous parler, donc sur le débat qu'il y avait sur l'intérêt de l'utilisation de ces cellules souches et puis sur la dichotomie, on va dire, entre cellules souches embryonnaires et puis cellules souches adultes. Ce débat n'est pas clos. Alors, là où je voudrais vous sensibiliser, étant moi-même dans des sciences humaines et sociales, l'idée, c'est pas de faire un choix qui soit tranché entre ça ou ça. C'est d'essayer de trouver celui qui sera le plus facile sur le plan technique, mais le plus acceptable aussi pour la communauté des citoyens. Et ça, je veux dire, si on n'a pas de débat sur ces questions, si ça reste du domaine du débat d'experts, on n'y arrivera jamais. Donc, ça m'intéresserait aussi de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça. Quelles sont les valeurs éthiques qui sont soulevées? Vous allez voir, il y en a quelques-unes qui sont en calligraphie normale et puis quelques-unes qui sont en italique. Celles qui sont en calligraphie normale, ce sont les valeurs éthiques les plus classiques. Alors, premièrement, j'ai mis l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité que l'on a de consentir, la capacité que l'on a de dire oui ou non à quelque chose. Quand on parle de cellules souches embryonnaires, c'est très ennuyeux. Parce qu'on ne consent pas sur quelque chose qui est nous. On consent sur quelque chose qui nous est extérieur. Si on utilise des embryons surnuméraires, ce sont les parents qui vont décider si oui ou non cet embryon va faire l'objet d'une réimplantation, d'une destruction ou éventuellement d'une utilisation en recherche. Donc cette notion d'autonomie, elle concerne un tiers en devenir, si vous voulez. Donc elle ne nous concerne pas forcément directement. Donc vous voyez déjà cette notion d'autonomie qu'on connaît bien dans le domaine de l'éthique biomédicale, elle a un autre sens ici. La notion de bienfaisance, de justice, qui sont aussi des notions extrêmement classiques de l'éthique de la recherche biomédicale ou de l'éthique biomédicale, sont totalement revisitées par cette problématique sur l'utilisation des cellules souches embryonnaires. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, il m'a semblé qu'on avait de nouvelles questions qu'on n'a pas considérées sous l'angle éthique jusqu'à présent, mais plutôt sous l'angle technique, qui, à mon avis, méritent, en tout cas, que l'on s'y attache donc plus sous l'angle éthique que technique, que sont d'une part la notion d'utilité et d'autre part la notion de liberté. Alors, la notion de liberté, c'est une notion qu'on connaît bien, mais la notion d'utilité, c'est... Je me suis posé la question, est-ce que on peut considérer que les cellules souches embryonnaires, est-ce qu'on pourrait justifier leur utilisation simplement sous prétexte qu'elles pourraient être utiles à la collectivité? C'est-à-dire qu'elles pourraient servir au bien commun, au plus grand nombre. Est-ce que ça justifie que l'on décide qu'il n'y aura pas de développement intra-utérin de cellules souches? Est-ce que ça justifie qu'on manipule des embryons et qu'on fasse du clonage thérapeutique? C'est une question. Je n'ai pas répondu à cette question, bien évidemment. Là, c'est quand même pour vous dire en gros la façon dont on essaye de raisonner. Vous l'avez vu, on essaye de montrer comment la science progresse. On essaye également de voir comment la science peut être perçue, que ce soit par des gens qui font de la recherche, mais également par les citoyens. Et j'ai trouvé que cette définition de la bioéthique par le Conseil de l'Europe était extrêmement intéressante parce qu'elle renvoie à la responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'elle ne renvoie pas juste à la responsabilité de ceux qui prennent des décisions. Elle renvoie aussi à la responsabilité de tous ceux qui ont la capacité de réfléchir à ces questions. Alors, je vais le lire avec vous. Et puis là aussi, j'espère que c'est quelque chose qui vous touchera et qui vous intéressera. Alors, c'est quoi la bioéthique? Je pense que cette définition est simple, mais qu'elle est tout à fait pertinente. La bioéthique s'intéresse aux problèmes que soulèvent, pour les êtres humains, les avancées de la biologie et de la médecine. Elle est par essence une réflexion pluridisciplinaire et pluraliste autour des problèmes posés à l'ensemble des citoyens. Elle doit également tenir compte du caractère évolutif de la science et des techniques. Donc on le voit, quand on choisit la voie de la réflexion bioéthique, on n'a pas choisi la voie de la réflexion la plus simple. Parce que d'abord, il faut parler avec d'autres. Parler avec d'autres, ça veut dire parler avec d'autres disciplines, avoir la capacité d'interagir avec d'autres disciplines. Donc, moi, je suis juriste, mais je parle avec des sociologues, je parle avec des généticiens, je parle avec des éthiciens, je parle avec des gens qui s'intéressent aux religions. Donc, la bioéthique, c'est ça, c'est la pluralité, c'est la pluridisciplinarité. Et c'est aussi accepté, à partir du moment où on parle de questions de bioéthique, et là, dans le domaine du clonage, c'est tellement évident, et dans le domaine des cellules souches, c'est tellement évident, il faut véritablement accepter le mouvement scientifique, c'est-à-dire le fait que ce qu'on a dit hier, on ne pourra peut-être pas le dire demain, ou en tout cas pas de la même façon. Et ça, quand on vient d'une discipline qui est aussi rigoureuse que le droit, ce n'est pas évident. C'est vraiment un facteur qu'il faut intégrer, qu'il faut accepter. Et on le retrouve véritablement dans les sciences de la vie, peut-être moins dans d'autres disciplines. Je vais me décaler. Voilà, voilà. Au milieu. Dites-moi. Ah, c'est le caméraman. Ben, vous voyez, c'est pas moi. Non, mais là aussi, elle n'arrivait pas à voir les jeunes filles. Bon, je me mets par là. Allez. On continue. Alors, on va maintenant regarder quels sont les différents enjeux. Alors, quelles sont les forces en présence? Je vous disais il y a 2 secondes, oui, on n'est pas tout seul, on interagit avec d'autres disciplines, mais au bout du compte, quand même, malgré tout, il faut prendre des décisions. Hein. Alors, c'est bien beau, nous ici on réfléchit, j'espère qu'on va bien réfléchir, mais en même temps, à un moment donné, ce qu'on appelle les pouvoirs publics, alors c'est très souvent le législateur ou dans les ministères, il faut qu'on prenne une décision, il faut qu'on choisisse, qu'on fasse un choix. Et ce choix, il doit prendre en compte l'intégralité de la faisabilité. Bon, il y a la faisabilité juridique, il y a l'instrument juridique. Ça, c'est, il faut savoir si c'est faisable, si on peut le faire. Et puis, il y a l'acceptation sociale. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs forces en présence. La première des forces, il me semble, c'est la science. Parce que sans les données objectives de la science, ben, moi, je ne peux rien faire, par exemple. Je ne peux pas me prononcer sur quoi que ce soit si je n'ai pas des données scientifiques qui sont validées. Alors, vous voyez déjà, dans le domaine du clonage, les scientifiques ne sont pas d'accord. On parle du clonage thérapeutique, là. Ou des cellules souches embryonnaires, les scientifiques ne sont pas d'accord. Donc déjà, moi, je suis très ennuyée. Première difficulté. Deuxième problème, ou deuxième force. Les personnes, les gens. Qu'est-ce que ça va leur apporter comme bénéfice? Je pense que quand on s'engage sur la voie d'un progrès thérapeutique, quand on s'engage sur la voie d'une nouvelle utilisation thérapeutique, il faut qu'on soit sûr que les gens vont en retirer un bénéfice, non pas qu'ils vont avoir plus de problèmes ou d'effets secondaires ou je ne sais quoi. L'idée, c'est quand même d'évaluer ce bénéfice. Dans la loi, on le verra tout à l'heure, l'idée, c'est qu'on a le droit de faire de la recherche sur les cellules embryonnaires si elles apportent un progrès thérapeutique majeur. Les chercheurs ne sont pas capables de nous dire ça actuellement. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Eux, ils le croient. Mais ils ne peuvent pas le démontrer. C'est juste que scientifiquement, ils ne peuvent pas le démontrer. Donc on le voit, il y a déjà une inadéquation entre les prérequis juridiques et les capacités scientifiques. Vous voyez, ça se complique. Dernier point, il faut savoir que les autorités publiques, que le gouvernement, que le législateur ne va certainement pas s'engager dans une voie s'il n'est pas sûr. Il ne va pas autoriser ou permettre que des choses se fassent s'il n'est pas sûr. Donc derrière la décision publique, il y a vraiment une idée de transparence. Et derrière cette transparence, il faut qu'il y ait du résultat. Vous allez voir finalement tout à l'heure que le choix qu'on a fait en France, il tient compte de l'ensemble de ces paramètres et de l'ensemble de ces incertitudes. C'est-à-dire qu'on a inventé une façon de réglementer et de réguler la recherche sur l'embryon ou sur les cellules embryonnaires, parce que justement on avait tellement de paramètres qui n'étaient pas maîtrisés et pas maîtrisables qu'il a fallu bien qu'on soit un peu inventif. Donc en gros, nous on a dit, c'est pas un scoop, mais on a dit la recherche sur l'embryon est interdite sauf si. Mais les exceptions sont tellement nombreuses que finalement, on en revient à dire qu'elle est autorisée. Et vous verrez comment on a trouvé un certain nombre d'artifices, et heureusement, pour permettre cette recherche sur l'embryon. On a vu d'une part donc les forces en présence. Maintenant, on va voir quelles sont les valeurs éthiques qui sont dans la balance. Alors, quand on essaye de regarder un petit peu les arguments, alors là, j'ai fait là aussi quelque chose d'assez simple pour que nous puissions en discuter. Quels sont les arguments pour et contre l'utilisation des cellules souches embryonnaires et du clonage thérapeutique? Généralement, les arguments vont ensemble. Les arguments qui sont contre, premièrement, c'est de dire on doit protéger la vie dès son commencement. Et la vie est un continuum. De quel droit est-ce qu'on s'autorise à arrêter le développement embryonnaire pour l'utiliser pour faire des médicaments ou pour faire des cellules ou des tissus qui vont servir à soigner des gens? De quel droit on arrête ce processus? Voilà, vraiment déjà, il n'y a pas d'argument contre ça, si vous voulez. On va le voir que d'ailleurs les arguments contre et en faveur sont difficilement compatibles. Autre argument pour la protection de l'embryon et donc contre la recherche, c'est celui du principe de dignité. Alors ce principe de dignité, c'est très compliqué à mettre en œuvre parce que ce principe de dignité, il concerne la personne humaine. Alors généralement, quand on dit la dignité de la personne humaine, c'est la personne vivante, à partir du moment où on est né et jusqu'à ce qu'on soit mort. Et là, la question de la dignité de l'embryon se pose, parce qu'il n'y a pas de statut de l'embryon. Ça n'existe pas. On n'a pas défini ce qu'était l'embryon. Donc à partir du moment où on n'a pas de statut de l'embryon, on ne peut pas dire si oui ou non, il dispose d'une dignité. Les arguments qui sont pour le développement de la recherche, premier argument pour, c'est on fait progresser la connaissance. Ça va être utile. Ça va être utile pour la collectivité. On va arriver à faire des médicaments, on va arriver à mettre en œuvre des traitements. Autre argument pour, c'est de dire, bien finalement, l'embryon, en fonction des finalités que l'on va octroyer à l'utilisation de ces cellules, il est parfaitement justifié, par exemple, de dire qu'en fonction du stade de développement, on peut utiliser des cellules de moins de 14 jours, c'est ce qui se fait beaucoup, pour faire de la différenciation cellulaire. Pourquoi on a utilisé ce seuil de 14 jours? C'est parce que jusqu'à 14 jours, on a toujours, même à l'état naturel, la capacité ou la possibilité, on va dire, le malheur, d'avoir une fausse couche. Donc ce potentiel de différenciation de 14 jours, c'est le temps que l'on autorise pour réaliser la différenciation cellulaire. C'est-à-dire, on ne peut utiliser ces cellules qu'entre le jour de la fécondation et le 14e jour de développement. Donc tout ça, ça se justifie en disant, mais finalement, le potentiel de développement et le potentiel de faire naître un bébé, eh bien, dans ce laps de temps, on n'en est tellement pas sûr à l'état naturel que finalement, ça se justifie et on peut faire de la recherche à ce stade-là. Quel est l'état du débat en France? Alors en France, finalement, c'est assez simple. Vous allez voir, on a réussi à trouver des solutions. Alors est-ce que ce sont les bonnes ou pas? Ça, on pourra peut-être en discuter ensuite. Mais ce qui se passe, c'est que nous, en droit, la première des difficultés qu'on devait surmonter, en tout cas pour réglementer et organiser la question sur les cellules souches embryonnaires ou sur l'embryon, à partir du moment où l'embryon n'a pas de statut et n'a pas de définition, il fallait qu'on arrive à le faire rentrer dans une catégorie juridique. Et en droit, on ne connaît que deux catégories, les choses et les personnes. Alors ça ne veut pas dire que les choses n'ont pas de droit, ça veut dire qu'en tout cas, elles n'ont pas du tout les mêmes droits que les personnes. Les choses sont aussi protégées. Dans les choses, on range en droit, par exemple, les animaux. Ce ne sont pas que les choses, les tables, les chaises, non. Donc il y a bien des êtres vivants qui rentrent dans la catégorie des choses. Mais par contre, on a le droit de vendre, d'acheter un animal, ce qu'on n'a pas le droit de faire avec des êtres humains. Ça s'appelle de l'esclavage autrement. Donc, clairement, l'embryon, vous avez vu, vous l'avez déjà senti, on a un potentiel de développement, donc ça veut dire qu'à terme, il y a quand même la dignité, il y a quand même le principe que quand même c'est un être en devenir, donc que ça peut devenir un être humain. Et puis de l'autre côté, c'est si on le manipule entre 0 et 14 jours, ben finalement ça devient vite autre chose qu'un être humain. En tout cas, on ne peut plus le qualifier d'être humain. Bon, alors là, pour le coup, le droit a beaucoup de difficultés et n'a pas défini véritablement de statut de l'embryon, c'est-à-dire n'a pas choisi l'une ou l'autre de ces catégories pour couvrir le statut de l'embryon. Donc, on a d'autres dispositions qui parlent de l'embryon dans le droit, mais en tout cas, on ne sait pas dans quelle catégorie, on ne sait toujours pas dans quelle catégorie ça rentre. Comment en France, quelle est la capacité que l'on a, en tout cas en France et mais partout ailleurs, mais comment c'est réglementé en tout cas pour nous, d'avoir accès à ces cellules souches? Donc on va voir d'abord les cellules souches et puis ensuite on verra la question du clonage en France. Les cellules souches, on peut les avoir, je vous l'ai dit, à partir de corps morts. Alors là, les corps morts, c'est soit des cellules d'embryons et de fœtus morts, notamment issues d'interruptions volontaires de grossesse ou d'interruptions médicales de grossesse. Vous devez connaître la différence entre les deux. Et autrement, donc les cellules issues des embryons surnuméraires, donc les cellules issues d'embryons in vitro. Donc tout ça, on estime que ça fait partie d'éléments qui ne sont pas censés se développer ou censés être des êtres vivants. Par rapport à cette... je l'ai passé exprès, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je préfère qu'on s'intéresse à ça. Par rapport à ces cellules issues, de corps morts, on avait plusieurs façons de les qualifier. On avait une première façon qui était avant 2004, donc avant la loi de bioéthique, où on disait que c'était des déchets opératoires. Alors c'est un peu puissant comme terminologie quand même. C'est-à-dire que une femme qui venait pour une interruption médicale de grossesse, donc son bébé était mort, et finalement ce bébé n'était pas considéré comme étant un bébé qui était né viable et donc n'avait pas les mêmes droits, et donc on pouvait finalement l'utiliser ou utiliser des cellules, hein, pas l'utiliser dans son entier, mais utiliser certaines de ces cellules sans aucune information de la mère, sans avoir recours à son consentement, donc qui est quand même le premier des droits, et on les utilisait pour le bien de la collectivité, sans aucune procédure particulière. Alors en 2004, je ne sais pas si vous le savez, nous avons en France une loi de bioéthique, donc la première loi de bioéthique a été adoptée en 1994, elle a été révisée en 2004 et elle est actuellement en cours de révision. Donc en 2004, on s'est dit quand même cette situation elle est un peu indigne, c'est-à-dire qu'on a pensé qu'il fallait respecter ces corps d'enfants morts. Alors il y a eu pas mal d'affaires aussi qui ont participé, on va dire, au changement de cette réglementation. On n'en a pas donné plus de définition d'embryon, mais par contre, ce qu'on a dit, c'est que clairement, on ne peut plus les utiliser comme ça. C'est-à-dire que pour avoir accès, notamment donc, à des cellules issues de fœtus, il faut dorénavant informer la mère et surtout l'informer sur le fait qu'on va utiliser ces cellules en recherche. Donc c'est un niveau de protection supplémentaire. Et c'est un niveau de reconnaissance supplémentaire également. De droit des parents ou de la mère sur ce corps qui, soi-disant, enfin, qui est un corps mort, mais qui jusque-là n'avait pas véritablement de statut ou n'était pas particulièrement protégé. Donc c'est un progrès en termes de protection. Qu'est-ce qu'il en retourne pour les corps vivants ? Donc on a vu hein, les cellules issues de corps morts, et puis maintenant nous allons voir qu'est-ce qui se passe pour les cellules issues de corps vivants. On reprend nos deux catégories que nous avons vues en introduction, donc les cellules souches adultes et puis ensuite les cellules souches embryonnaires. Ben, les cellules souches adultes, c'est pas très compliqué. L'accès, c'est à l'occasion d'une prise de sang, à l'occasion d'un prélèvement de tissu. Et on va dire, on a tout un arsenal juridique dans lequel je ne vais pas du tout rentrer là aujourd'hui, qui protège l'accès aux éléments du corps humain. Donc en gros, il faut que les personnes aient consenti, qu'elles aient accepté l'utilisation de ces cellules en recherche, et finalement ça pose pas vraiment de difficultés. Hein ? Ça pose des difficultés en termes de stockage, de qualité, de conservation, mais en termes, je dirais, d'éthique et de protection des personnes, ça pose pas plus de difficultés que quand on va faire une intervention chirurgicale. On a des procédures qui sont très claires. Et donc, on utilise d'ailleurs ces cellules, on emploie le terme en routine, notamment pour faire de la régénération de peau, etc. Donc, ces cellules souches-là sont déjà largement utilisées en médecine. Donc, il n'y a pas de problème avec ces cellules souches adultes. Par contre, il y a plus de difficultés avec nos fameuses cellules souches embryonnaires pour lesquelles nous n'avons pas encore d'application médicale. Alors, les questions qui se posent ici pour les cellules souches embryonnaires, elles se posent à l'état du stade de la recherche. Donc, en gros, c'est comme on n'en est pas encore à l'application médicale ou à l'application en routine, on se pose les questions, alors, à l'horizon de la thérapeutique, mais on se pose véritablement les questions à l'échelle de la recherche. C'est-à-dire, c'est au niveau de la recherche que les questions éthiques se posent. Je le répète, pas de statut de l'embryon, mais pas de statut non plus des cellules issues de l'embryon dans les lois de bioéthique. On n'a rien dit sur ça, sur le statut, sur la qualification, on n'a rien dit. Aujourd'hui, on pense qu'on va pouvoir les utiliser. Alors, comme je vous le disais, comme on en est au stade de la recherche, ce ne sont que des présupposés. Mais ces présupposés, vous savez, c'est ça la démarche scientifique, c'est qu'on a une hypothèse et qu'on cherche à la valider. Donc, si on ne donne pas accès à ces cellules, aux chercheurs, ils ne pourront pas valider ou invalider leurs hypothèses scientifiques. Donc, tant qu'on ne pouvait pas les utiliser, on ne se posait pas de questions. Aujourd'hui qu'on peut les utiliser, on en est véritablement à se demander mais dans quelles conditions on peut donner la possibilité aux chercheurs de les utiliser. Tout ce qui est bloquant, à mon sens, pour l'utilisation, la non-utilisation, au-delà de l'utilité scientifique, c'est vraiment ce qui est central, c'est la notion de destruction de l'embryon. C'est-à-dire que c'est à partir de la question de « on détruit un embryon qui a la potentialité de se développer » que toutes les questions découlent et qu'on prend position. C'est véritablement par rapport à ça que les gens se positionnent. C'est « est-ce qu'on peut détruire un embryon pour le bien de la recherche ?» et éventuellement donc en prenant le risque que ça ne donne rien en termes de science, enfin en termes de thérapeutique puisqu'on en est au stade de la validation d'hypothèses. Donc ça, est-ce qu'on l'accepte socialement qu'on détruise des embryons ou qu'on détruise des êtres en devenir, ou bien est-ce qu'au contraire, on estime que ça ne vaut pas le coup et qu'il faut choisir d'autres voies qui peuvent être tout autant prometteuses, mais qui n'engendreront pas cette difficulté de la destruction de l'embryon. Donc vraiment, le creux et le nœud du problème, c'est ça. C'est la destruction de l'embryon. Les embryons et les fœtus. Alors, on l'a vu tout à l'heure, comme Pavlov, la sonnette. on l'a vu tout à l'heure, les questions d'accès aux embryons, aux cellules embryonnaires et aux fœtus ne se posent absolument pas de la même façon en droit français. Le fœtus, donc depuis 2004, est protégé. C'est-à-dire que le fœtus ne peut plus être disponible, on ne peut plus en disposer comme on le souhaite, pour faire soit de l'expérimentation, soit même pour le conserver dans son entier. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, on a conservé des fœtus à différents stades de développement, ne serait-ce que pour des raisons purement pédagogiques. Dans les facultés de médecine, vous rentriez dans des salles de cours, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait rentrer dans des salles de cours dans lesquelles on avait des bocaux de formol, dans lesquels on avait des embryons humains qui étaient, entre guillemets, pas exposés, mais en tout cas qui servaient à la description anatomique des embryons et du développement de l'embryon. Donc, on le sait, des corps qui n'étaient pas réclamés, en tout cas par la famille, ont pu être conservés à visée pédagogique. Aujourd'hui, en fait, ce corps de l'embryon peut également être donné à la science, mais dans le cadre d'une procédure extrêmement formalisée. Donc, ce qu'on voit, c'est que surtout, l'embryon, donc un être qui est déjà formé, a gagné en sacralité quand même, et a gagné en dignité, et a gagné en régime de protection, en termes de protection. À côté donc de ce régime de l'embryon, du fœtus qui aujourd'hui est extrêmement bien balisé, extrêmement clair, on a essayé de développer tout un encadrement concernant les embryons surnuméraires. Alors là, je vous ai mis des articles de loi, mais j'en ai pas mis beaucoup, alors donc vous m'en voudrez pas, mais là, je l'ai mis parce que je pense que c'est quand même important que vous sachiez que dans le Code de la Santé publique, donc ce qui est écrit là, CSP, c'est Code de la Santé publique, dans le Code, dans une loi, on a formalisé l'accès et les prélèvements sur embryons et fœtus à visée scientifique après interruption de grossesse. Donc ça, c'est dans le cadre de l'IVG et de l'IMG. Il faut informer spécifiquement les femmes. Donc, il y a des obligations qui doivent être respectées. D'accord ? Donc, il faut informer spécifiquement les femmes. Il n'y a pas de possibilité de le faire pour des mineurs. C'est-à-dire que les mineurs ne peuvent pas rentrer dans ce type de procédure quand elles ont recours à un avortement. Il faut qu'il y ait un consentement écrit. Et si on doit utiliser ces prélèvements issus de corps morts, pour le coup, il faut le faire dans le cadre d'un protocole. Et ces protocoles sont supervisés par une agence qui s'appelle l'Agence de la biomédecine. Donc c'est une agence indépendante qui est une agence de santé, qui a donc la possibilité de regarder précisément ce que les chercheurs vont faire avec ces prélèvements, et de dire si oui ou non, ben ça vaut le coup, si c'est pertinent scientifiquement, si ça se justifie sur le plan éthique, etc. Donc ça, c'est une première procédure extrêmement formalisée pour les produits issus de l'IVG et de l'IMG. Concernant la recherche sur l'embryon, donc ces fameux embryons surnuméraires, il y a énormément de conditions qui doivent être respectées. Pour une raison très simple, et là, alors ça, c'est toute la splendeur du droit, c'est que dans la loi, ce qu'on peut lire, ce que l'article de loi dit, c'est la recherche sur l'embryon est interdite. Alors vous allez me dire, alors ça sert à quoi là tout ce que vous venez de nous dire là juste avant, si vous nous dites que la recherche sur l'embryon est interdite. Alors c'est vraiment une formule. Pourquoi ? Parce que jusqu'en 2004, effectivement, la recherche sur l'embryon était totalement interdite. En 2004, il commençait à y avoir des chercheurs qui s'engageaient dans la voie de la recherche sur les cellules souches embryonnaires et qui voulaient avoir un cadre pour pouvoir exercer leur recherche, pour ne pas être hors la loi, c'est normal. Ils n'avaient pas envie de faire de la recherche et aller en prison. Donc ils voulaient un cadre qui soit un cadre qui leur permette de faire leur recherche. Au moment des débats sur la révision de la loi de bioéthique, ça a été extrêmement tendu en termes d'argumentation entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et vous avez vu, quand on a vu tout à l'heure les arguments qui étaient pour et les arguments qui étaient contre, mais c'est difficilement conciliable, voire totalement inconciliable. Et devant cette énorme difficulté de dire d'un côté, il faut qu'on laisse les chercheurs avancer et développer la connaissance, se développer la connaissance, et puis d'un autre côté, il faut quand même qu'on protège le corps, il faut qu'on protège également alors je ne sais pas si on peut dire protéger les embryons parce que là c'est pas le cas, mais en tout cas qu'on protège les parents ou qu'on encourage en tout cas la recherche sur l'embryon, eh bien on a choisi ce modus vivendi, c'est-à-dire on a dit la recherche sur l'embryon est interdite sauf exception. Alors, quelles sont les exceptions? En gros, c'est quelles sont les conditions pour échapper à ce principe d'interdiction? Qu'est-ce que les chercheurs doivent faire et doivent montrer pour pouvoir faire de la recherche sur l'embryon? Ils doivent montrer d'abord qu'ils se situent dans l'une ou l'autre de ces deux catégories de dérogation. Alors, je vous donne une petite explication sur les deux catégories de dérogation. Les études, ça veut dire que quand on fait des études sur l'embryon, on l'étudie in utero. Ça veut dire qu'on ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'embryon. On regarde son développement, on essaye d'améliorer, éventuellement s'il y a des pathologies liées au développement, on essaye d'améliorer la prise en charge de la femme, on essaye d'améliorer le dépistage de certaines maladies. Mais la notion d'étude sur l'embryon veut dire très clairement qu'on ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'embryon. Donc ça, c'est permis. Si on montre qu'on fait des études sur des embryons in utero, ça ne pose pas de difficulté. Ce qui est tout à fait nouveau en 2004, c'est la possibilité de faire de la recherche. Là, la recherche, pour le coup, très clairement, il n'y a pas d'idée de réimplantation derrière. L'idée, ce n'est pas d'observer le développement normal d'un embryon in utero. L'idée, c'est d'utiliser les cellules souches et d'améliorer leur capacité de différenciation et d'améliorer en fait les qualités techniques de ces lignées cellulaires. Alors maintenant, quelles sont les conditions? D'une part, il faut que ça soit des embryons surnuméraires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc des embryons qui sont utilisés dans le cadre des fécondations in vitro, et surtout qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Donc il faut s'assurer de ça. Alors pour faire ça, il y a toute une procédure pour permettre de montrer que les parents n'ont plus de projet parental. Alors comme je vous le disais là aussi, comme il y a eu énormément de débats avant l'adoption de ce principe dans la loi, de ce principe de la dérogation, et pour ménager toutes les susceptibilités, ce qu'a fait le législateur, c'est de dire on autorise uniquement pour 5 ans. Et dans 5 ans, on évalue et on voit ce que ça a donné. Parce qu'il y avait tout ce débat sur, d'abord le débat éthique, mais aussi le débat scientifique. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Est-ce que ça va donner des résultats? Est-ce que ça va pas donner de résultats? Donc, pour essayer de clore le débat autour de ça, on a dit, on va autoriser sous condition et pour un certain temps. Le certain temps, c'était 5 ans. Très clairement, quand nous, on a vu apparaître cette disposition, on savait très bien qu'on ne pourrait pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus dire aux chercheurs, vous arrêtez maintenant, ça fait 5 ans, c'était en 2009 que ça faisait 5 ans, vous arrêtez vos recherches, et puis on arrête ça, et on voit parce que ça n'a rien donné. Non. En fait, il y a eu des rapports intermédiaires, et ces rapports ont montré qu'on commençait à avoir des résultats, mais qu'on était encore loin de l'application thérapeutique, mais qu'il y avait des résultats. La deuxième condition, c'est qu'ils doivent permettre des progrès thérapeutiques majeurs. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que cette condition était illusoire et que les chercheurs avaient beaucoup de difficultés à le démontrer très clairement. Comme c'est l'agence de la biomédecine qui regarde ces protocoles, généralement c'est assez souple sur cette condition. Et la dernière condition, qui n'est pas des moindres, c'est qu'il faut qu'on montre qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que le chercheur, dans son protocole, doit clairement montrer qu'il ne pouvait arriver à son résultat qu'en utilisant ce type de cellules, qu'il n'aurait pas pu le faire avec des cellules souches adultes, par exemple. Donc ce sont des conditions scientifiques extrêmement strictes et extrêmement rigoureuses. Je vous le disais tout à l'heure, vu qu'on n'a pas défini de statut de l'embryon, et vu qu'on n'a pas, véritablement, on ne l'a pas doté de droit, c'est-à-dire quand je dis qu'on n'a pas donné de statut à l'embryon, on a écrit nulle part dans la loi, l'embryon c'est ça, et ses droits ce sont ceux-là. Ça n'existe pas. Donc comme il n'y a pas de véritable statut de l'embryon, c'est finalement vers les parents que la loi se retourne, c'est-à-dire que ce sont les parents qui vont légitimer. Donc ça, je pense que quand même sur le plan de la représentation éthique, c'est extrêmement important. Ce sont les parents qui vont légitimer tel ou tel type d'utilisation. Alors, vous savez, on est toujours ennuyé avec cette histoire de légitimer. Parce que autant c'est facile, ou c'est pas c'est facile, disons que c'est facilement explicable de prendre des décisions pour nos enfants une fois qu'ils sont vivants, autant que c'est beaucoup plus compliqué de se prononcer sur des êtres en devenir. Et la façon de se prononcer sur des êtres en devenir et les valeurs que l'on doit mettre dans la balance, c'est vraiment assez complexe et c'est vraiment des valeurs qui se substituent. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas dit que l'embryon avait une dignité qui lui était propre, eh bien on lui a substitué la notion, le fait que ce soit les parents qui autorisent, qui permettent, qui le dotent d'une dignité particulière. Donc ça aussi, ça fait l'objet de beaucoup de débats. Donc vous le voyez ici, j'ai juste décrit quelle était exactement la procédure pour être sûr que les parents aient bien compris quels étaient les enjeux de l'utilisation de l'embryon en recherche. Et ça voulait surtout dire qu'ensuite, c'était un genre d'abandon. C'est-à-dire qu'une fois que c'était destiné à la recherche, bien évidemment, il ne pourrait jamais récupérer ses embryons. Bien évidemment. Je vous l'ai dit en introduction, on est actuellement en train de réviser la loi de bioéthique, qui devrait intervenir là, durant l'année 2010. Et clairement, beaucoup de gens ont dit, c'est vraiment absurde cette situation du principe d'interdiction. Parce que, avec toutes les exceptions que l'on a pu décrire et qui sont, je vous disais, rigoureuses, mais finalement pas si compliquées que ça pour les chercheurs à démontrer, ben finalement, on en est plutôt à un régime d'autorisation. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus simple pour tout le monde d'écrire dans la loi clairement « la recherche sur l'embryon est autorisée ». Qu'est-ce que ça va changer ? Alors, je pense que ça change sur le plan de la symbolique morale, quand même. C'est-à-dire que rester dans un principe d'interdiction, ça voulait dire accorder une forme de sacralité, quand même, à l'embryon. Si on affirme le principe de la recherche sur l'embryon, on passe à une forme d'utilitarisme, avec laquelle on a un peu de mal en France. Sous une forme utilitariste, on a un peu de mal. Il y a d'autres pays où ça se passe moins difficilement que nous. Le clonage. Donc après les cellules souches, le clonage. On l'a dit tout à l'heure, le clonage reproductif, c'est interdit. Alors ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont envie d'en faire, hein, et que certainement un jour on y arrivera. Mais en l'état actuel des textes et en l'état actuel des choses, c'est interdit. Donc on ne va pas vraiment discuter ça aujourd'hui. Ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est le clonage thérapeutique. Quelles sont les questions éthiques qui se posent ici ? Alors, c'est, d'une part, quand même on fait la même chose sur le plan technique. Qu'on fasse du clonage reproductif ou qu'on fasse du clonage thérapeutique, au départ, la manipulation de base, c'est la même. Donc, c'est juste l'objectif qui est différent. La manipulation de base, c'est la même. Donc, est-ce que finalement, ça ne pose pas des questions sur le fait de légitimer ou pas la technique elle-même. Autre question, la véracité scientifique. Comme je vous le disais tout à l'heure, comme on est très hésitant sur le plan de la science, on a vraiment un problème pour dire oui ou non. L'acceptation sociale passera également par l'acceptation, et avant tout par l'acceptation scientifique. Donc il y a un vrai problème sur les données de la science. Et la dernière chose, qui à mon sens est extrêmement intéressante, c'est que plusieurs propositions, notamment parlementaires, ont dit qu'il faut arrêter de parler de clonage thérapeutique. Il faut arrêter d'utiliser ce terme parce que ça embrouille la façon de véritablement bien évaluer la question. Il faut qu'on parle maintenant de transfert nucléaire. Et le fait de ne pas employer le même mot, d'emblée, ça permet aussi d'envisager les choses de façon très différente. C'est-à-dire que si on parle de clonage, on sait que c'est le clonage reproductif, on sait qu'on n'a pas le droit de le faire. Et si on parle de transfert nucléaire, on entend bien que c'est une technique, mais qu'il y a un objectif qui n'est pas du tout celui de faire naître un être vivant à l'identique. Donc ça permet aussi de lever un certain nombre de verrous, et l'utilisation d'une sémantique plus appropriée, finalement, pourra aussi permettre l'acceptation sociale. Alors sur cette diapo, j'avais mis juste quelques éléments de convergence et de divergence qui sont en gros ce que je viens de dire maintenant, donc on ne va pas revenir dessus. Par contre, je voulais juste vous dire quelques mots, très rapidement, donc ce n'est pas la peine là de prendre des notes, très rapidement sur ce qui se passe chez nos voisins. Donc on va aller très vite sur ce qui se passe chez nos voisins. Il faut que vous sachiez qu'on est dans une dimension extrêmement mondialisée, c'est-à-dire que la recherche, on ne la fait plus chacun dans notre petit laboratoire, tout seul en France. Cette recherche, elle est très souvent, et surtout ces recherches-là qui sont très chères, se font en partenariat avec d'autres pays européens. Le problème, c'est que si on fait un panorama de ce qui existe en termes de législation au niveau européen, eh bien, on a plusieurs cas de figure. On a des pays qui autorisent les recherches sur l'embryon et le clonage thérapeutique, des pays qui interdisent toute législation, des pays qui sont intermédiaires, donc c'est le cas de la France, par exemple, et puis des pays qui sont en train de construire leur propre législation. Et donc, si on veut essayer de faire quelque chose en commun, à partir du moment déjà où on n'a pas les mêmes règles, ça devient très vite compliqué. Alors, il y a même des chercheurs en France qui ont dit à un moment donné, vous allez nous obliger à nous exiler pour faire nos recherches ailleurs parce que vous ne nous donnez pas la possibilité de le faire en France. Donc, c'est un vrai problème, le fait d'avoir une forme d'harmonisation entre les différents pays européens. Alors ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que les valeurs éthiques qui sont sous-jacentes sont extrêmement, là pour le coup, sont totalement inconciliables. C'est-à-dire que dans les pays qui sont pour, on va dire, il faut mettre en avant l'utilité de l'embryon, l'utilité de cette recherche, pour le bénéfice commun, pour le bien commun, pour le fait qu'on a bien identifié les finalités, on le justifie par le fait qu'il n'existe pas de méthode alternative, et je vous le disais, c'est le cas de l'Angleterre et de la Belgique, où ben, on peut faire du transfert nucléaire ou du clonage thérapeutique, et où on peut utiliser des embryons à visée de recherche sans aucune difficulté. D'accord ? Donc ça, c'est véritablement pour. On voit que c'est vraiment des valeurs collectives pour dire qu'on est pour le clonage thérapeutique ou pour l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines. C'est vraiment l'intérêt collectif. Ceux qui sont contre, au niveau des valeurs éthiques, mais il y a deux pays en fait qui sont assez emblématiques. Il y en a d'autres, mais j'ai mis ceux-là parce que je pense que c'est ça qui peut permettre de faire du débat. D'une part, il y a des arguments souvent qui sont religieux. C'est le cas de l'Italie. En gros, c'est on protège la vie dès son commencement. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire dès son commencement. On pourra peut-être en discuter. C'est quoi le début de la vie? Je suis incapable de répondre à cette question. Il y a beaucoup de gens qui se sont posés déjà cette question. Mais en gros, voilà, l'argument religieux, c'est vraiment on protège la vie dès le départ, dès le début. Un autre argument qu'on a pu voir, c'est un argument qui a été développé notamment en Allemagne. Parce qu'ils ne voulaient pas... Alors l'Allemagne, c'était pour des raisons plutôt historiques que religieuses. C'était véritablement pour dire, nous, après la Seconde Guerre mondiale, après tout ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, on ne veut pas avoir la moindre suspicion, encore une fois, d'être dans l'utilitarisme, utiliser des éléments de corps, etc. Donc vraiment, l'argument en Allemagne pour dire qu'ils étaient contre, c'est un argument historique. Donc vous le voyez, c'est inconciliable, les deux. C'est véritablement, pour faire progresser les mentalités dans un autre ou dans l'un ou l'autre champ, c'est extrêmement difficile. Qui c'est qui décide? Alors là, je vais finalement aller très très vite. Il y a d'une part les comités d'éthique. On a plusieurs avis qui ont été rendus à l'échelle nationale. En France, par exemple, l'avis du Comité consultatif national d'éthique. Donc il y a plein d'avis qui ont été rendus à l'échelle des États, en Allemagne également, en Grande-Bretagne. À l'échelle européenne aussi, le groupe européen d'éthique a rendu un avis sur ces questions de clonage et de transfert nucléaire. Il n'y a pas grand-chose à l'échelle internationale. Le problème, c'est que ce sont des avis qui sont limités. C'est-à-dire, c'est juste pour éclairer la décision. Ce n'est pas obligatoire, ces avis. Donc les comités d'éthique jouent un rôle, mais ne rendent pas véritablement de décision. À vos souhaits. Qui d'autre décide? La loi. Là aussi, on a différentes strates et on est vraiment ennuyé. Les lois nationales, on a vu, elles sont divergentes et elles ne sont pas conciliables. À l'échelle européenne, personne n'est arrivé à s'entendre, et à l'échelle internationale encore moins. Donc la loi véritablement décide dans son pays, dans son coin, et reste assez isolée. Donc vous voyez, les comités d'éthique, c'est limité, la loi, c'est limité. Qu'est-ce qui nous reste ? À mon sens, la société. Bien sûr, c'est très très important qu'il puisse y avoir du débat social autour de ces questions. Cette nécessité du débat social, elle s'inscrit dans un domaine, comme je vous le disais, qui n'est pas stable scientifiquement. Et quand je vous disais, oui, le clonage reproductif, c'est interdit, je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques années, donc il y a eu un véritable effet d'annonce d'un chercheur éminent sud-coréen, mais éminent, c'est-à-dire ce n'était pas un charlatan, qui a donc fait une grande publication en disant qu'il avait réussi à faire du clonage humain, donc qui aurait pu être potentiellement reproductif, mais qu'il avait réussi à cloner un humain en laboratoire. Et ça, c'était il y a quelques années. Et il s'est avéré que c'était une fraude, que ce n'était pas vrai, qu'il avait falsifié ses résultats. Donc ça a été une grande consternation pour la communauté scientifique. Et donc il faut faire attention aussi aux effets d'annonce qui sont réalisés par les scientifiques. Et d'un autre côté, il faut quand même leur faire confiance. Donc vous voyez que la société est un peu en porte-à-faux. Et donc il faut qu'on s'inscrive dans un débat qui est un débat citoyen. Dans un débat citoyen, et c'est ce qui a été fait notamment avec la mise en place des états généraux de la bioéthique. Bon, maintenant vous ne pouvez plus contribuer parce que le site est fermé, mais jusqu'à il y a quelques mois, il y a eu des contributions de lycéens sur qu'est-ce qu'il fallait faire évoluer dans la loi et comment il fallait le faire évoluer. Donc ça, c'est très intéressant en termes de concertation sociale parce que ça permettait aussi de connaître la vie des gens et de comprendre quelles étaient les attentes des citoyens. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de littérature sur la science, l'éthique, le droit, le clonage. J'en ai mis que quelques-unes ici. C'est juste pour vous montrer les liens entre science et société. C'est juste pour vous montrer que ce n'est pas figé et que dans ce domaine-là, on a tous notre mot à dire. Et donc, je terminerai par... je pense que la meilleure des questions, c'est peut-être de se commencer par se poser, c'est de se dire... Est-ce que tout ce qui est techniquement possible pourra être réalisé et quel est le poids des mots dans l'utilisation des nouvelles technologies ? Je vous remercie.